Voilà, mes amis, nous reprenons notre cours avec notre grand ami et notre maître, Monsieur Ababou. Et je voulais juste faire une toute petite introduction. Comme vous le savez, on a lancé sur le site la publicité pour le livre de Monsieur Ababou, qui est un livre absolument hors du commun. Et j'avais fait une petite vidéo, mais entre-temps, il y a tellement d'autres vidéos qui ont pris la place que ma petite vidéo de publicité sur son livre-là, elle n'est plus tout à fait visible. Je vais la remettre en première position. Et donc, comme vous le voyez, c'est un hip-hop. Ça veut dire c'est pas une publicité constamment sur le site, mais elle apparaît de temps en temps. Et donc, vous appuyez sur la publicité, vous rentrez pour commander le livre, etc. Encore une fois, je vous conseille vivement d'acheter ce livre qui est un livre extraordinaire en deux parties. La première partie, plus sur la mondialisation, et la deuxième partie sur le conflit qu'il y avait eu dans la guerre qu'on a appelée en 2014 Tsouketan, quand il y a eu le conflit avec Gaza, qui correspond tellement à ce qui vient de se passer ces dernières semaines. Et encore une fois, je veux dire, comme nos maîtres nous disent, il n'est pas permis de faire trop de compliments devant la personne quand elle est présente. Donc, il n'écoute pas, il s'est bouché les oreilles. Mais vraiment, c'est un livre extraordinaire que j'ai lu déjà moi aussi et que beaucoup de personnes qui l'ont acheté et qui l'ont lu ont effectivement dit que c'était un livre extraordinaire. On vous prévient déjà que notre ami est en train de terminer un livre sur la Torah, sur le couple, sur la faute, qui sera bientôt diffusé aussi sur notre site. Et ça va être aussi, je pense, une grande merveille. Alors, en tous les cas, on va reprendre quelques extraits de ce livre-là. Et je voudrais poser une question très importante. Monsieur notre ami, donc, fait, on pourrait dire, un parallèle assez extraordinaire entre le corps humain et l'humanité tout entière. Et avec votre permission, je fais juste une introduction et je vous cède la parole. Si l'humanité tout entière acceptait de fonctionner selon le corps humain, alors ça serait finalement l'humanité de la délivrance finale, c'est-à-dire un corps sans maladie, où il y a énormément de parties différentes, mais chaque partie sait qu'elle a besoin de l'autre. Donc le respect de chaque partie. Qu'est-ce que c'est la maladie ? Il y a une partie qui ne fonctionne plus en relation avec les autres et ça fout tout le corps en l'air.
C'est ça.
Voilà. C'est exactement le schéma de l'humanité. L'humanité est malade. Depuis le début de l'histoire, l'humanité est malade puisque chaque pays, chaque idéologie, chaque religion pense finalement être la seule vraie et refuse de s'associer aux autres. C'est ça la maladie du monde. Et le Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va reconstruire l'humanité sur le modèle du corps humain, avec une infinité de différences, mais toutes dans l'unité. Voilà. Donc ça, c'est un point très très important que notre ami soulève. Et finalement, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a un verset que nos commentaires expliquent dans la Torah. Hachem dit « Ani Hachem Rofecha, je suis Hachem Motamo, ton médecin, ton guérisseur. » Et les commentaires posent une question, c'est pas notre guérisseur, si on a besoin d'être guéri, on va chez un médecin. Alors, la réponse est, c'est parce que finalement, tout le problème de l'histoire humaine, c'est une maladie qui s'est infiltrée partout dans l'histoire humaine, comme dans le corps.
Absolument.
Et ce que Hachem va reconstruire avec la délivrance, c'est un corps libéré de toutes ces maladies.
Absolument.
Où tous les peuples accepteront de s'unir aux autres. Voilà. Est-ce que on peut vous laisser la parole et approfondir un petit peu cette notion ?
Bien, alors Rav, évidemment, d'abord bonjour. Évidemment, il y a une déstructuration du monde à partir de la faute dite originelle, d'Adam Arishon. Mm-hmm. Le serpent est rentré dans la féminité, dans le côté extérieur d'Adam Arishon, dans son attribut féminin, et a pénétré la femme pour atteindre l'homme. La femme étant bien supérieure à l'homme, en l'ayant réussi à pénétrer la femme, il fait tomber l'homme. Ça, c'est le principe de base.
Jusqu'à aujourd'hui.
Jusqu'à aujourd'hui.
Les femmes sont beaucoup plus attaquées que l'homme.
Jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette faute-là a déstructuré le monde. Le monde était construit auparavant, exactement comme vous dites, et comme je dis dans le livre, comme un corps humain. Il y avait les familles de la Terre avaient des fonctions. Fonction cœur, fonction foie, fonction rein, fonction cerveau, etc. Et chaque fonction était reliée et complémentaire aux autres.
Bien sûr.
Maintenant, la déstructuration faite par la semence, si vous voulez, négative du serpent, a entraîné tout simplement une déstructuration de ses fonctions et à partir de ce moment-là, les nations se sont retrouvées seules et non plus réunies. Ils n'ont plus uni, avec leur fonction, mais leur fonction qui a été brouillée par la souillure du serpent. C'est-à-dire qu'elles ne savaient plus du tout...
Comme un cœur qui n'accepte pas de recevoir le sang.
Exactement, exactement, exactement.
Donc,
c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et comme même le petit doigt ne va pas recevoir le sang du cœur parce que tout simplement il est autonome, et bien à partir de ce moment-là, on ne peut plus attraper, on est malade. La maladie, qu'est-ce que c'est? C'est une déstructuration des fonctions. Qu'il soit... humaine, à l'intérieur d'un corps, ou universelle.
D'ailleurs, dans le mot machala, il y a la racine chol, ou halal, qui veut dire vide.
Vide,
bien sûr. Il y a un vide.
Voilà.
Il y a un vide dans le monde.
C'est ça.
Il n'y a plus d'unité.
C'est ça. Alors, cette fonction qui va revenir, Bezrat Hashem, au niveau universel, avec le Mashiach Ben David, est une fonction que nous attendons, que, véritablement, est la source, tout simplement, des remèdes de toutes les maladies. À partir de ce moment-là, si vous voulez, excusez-moi l'expression, les médecins, on n'en aura plus besoin. Parce que tout simplement, la maladie va disparaître. Et donc, on rentrera dans un monde de triathlétisme.
Parce que l'unité est la plus grande de toutes les guérisons.
Voilà, parce que l'unité est la plus grande de toutes les guérisons. Donc, dans ce couple-là, dans ce couple nation, Israël, il y a d'abord un problème très important.
C'est... Juste pour vous interrompre, excusez-moi, mais ça me rappelle que le Rabbi Lubavitch disait quelque chose d'extraordinaire dans un écrit de Chassidut. Il disait, on n'aura plus besoin au moment de la délivrance des médecins pour guérir, mais on aura besoin d'eux pour surveiller que l'homme ne fait plus de bêtises.
Oui, c'est ça, c'est
voilà.
Exactement.
C'est-à-dire
c'est
que ça. Les médecins ne seront plus là pour guérir, mais seront là pour surveiller le monde, continuer à vous comporter dans l'unité.
Exactement, voilà. Exactement. Alors, c'est exactement ça. Mm-hmm. Alors, mais chacun sera capable de s'autodiscipliner aussi. Mm-hmm. C'est-à-dire que chacun rentrera dans sa propre lumière. Mm-hmm. Chacun, je parle du monde universel et pas seulement du monde juif, bien entendu.
Sûr, évidemment.
Et dans, chacun aura sa propre lumière qui est en lui, mais enfouie, voilée. Pas éteinte, mais enfouie et voilée. Elle est éteinte pour les méchants, si vous voulez,
oui.
Pour ceux qui ont dépassé le 50e niveau d'impureté, mais elle est voilée. Mm-hmm. Alors, cette lumière va être resplendir avec le Mashiach ben David, et ça, c'est le travail, si vous voulez, de la messianisation de la fin des temps de l'histoire avec la Torah de la délivrance. Mm-hmm. Maintenant, vous savez qu'il y a des nations qui sont dites féminines, et des actions qui sont, et des nations, pardon, qui sont dites masculines.
Oui.
À l'intérieur d'une nation qui est masculine, et aussi la féminité.
Comme dans l'être humain, il y a le
exactement,
masculin et le féminin.
Exactement. Et il y a des nations féminines qui ont aussi leur intériorité, qui peuvent être aussi, par exemple, masculin. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une nation féminine? C'est une nation qui va réaliser...
En vérité, dans chaque être, il y a une dimension. Nous, on a le masculin visible, mais il y a aussi une intériorité féminine.
Absolument.
Chez la femme, le féminin est visible... Mais dans sa dimension intérieure, il y a du masculin aussi.
Bien sûr, bien sûr. Et réciproquement.
Chaque être est complet.
Exactement. Parce que tout le problème, mm-hmm. c'est la constitution du Aleph, c'est-à-dire de l'unité intérieure. Mm-hmm. Et les nations, si vous voulez, évoluent. Et la dynamisation de l'histoire évolue selon ses propres règles-là. Mm-hmm. C'est-à-dire, véritablement, la faute a été de séparer le côté féminin du côté masculin, y compris à l'intérieur même des nations.
Donc séparer l'intériorité de l'extérieur.
Voilà, voilà.
Séparer le monde d'en haut du monde d'en bas.
Exactement. Séparer
détruire
le monde.
Le Aleph.
Exactement. Et rentrer dans le Bête. Hein, Bereshit, la première
c'est
lettre.
Pour ça que la Torah commence par le Bête, pour nous faire comprendre qu'elle est là pour ramener
le Aleph. Tout le travail de l'humanité, la dynamique de l'histoire, c'est de passer du Bête au Aleph.
Et d'ailleurs, dans le mot le Père, la Mère, les deux commencent par un Aleph.
Exact.
Abba, Ima. Pour bien nous faire comprendre que la véritable structure de la vie, puisque l'union du Père et de la Mère donne la vie, c'est en commençant par le Aleph.
C'est ça. C'est
si on n'a pas le Aleph, il n'y a pas de vie.
C'est ça.
C'est la mort.
C'est ça. Exactement. Alors donc, dans, si vous voulez, cet état universel d'après la faute, il y a une déstructuration des fonctions, une déstructuration de l'intériorité et de l'extériorité, masculin et féminin, et il y a surtout le fait que chaque nation s'est reconstituée à travers ses propres valeurs et croyait que ses valeurs étaient la dominante. Donc ce sont toutes les civilisations, ce sont les empires.
C'est comme si le foie disait « j'ai pas besoin du cœur ».
Voilà, exactement.
Les poumons disaient « j'ai pas besoin des gens ».
Exactement.
C'est de la folie.
C'est de la folie.
Non, mais au niveau du corps, on le comprend que c'est de la folie. Mais comment le monde peut être à ce point bête ?
Mais parce que c'est monstrueux. Pourquoi ?
Mais comment on a pu tomber dans une telle bêtise ? Je veux dire, j'ai pas besoin des autres.
Je vais vous répondre. Parce qu'il y a une logique interne dans le mal. C'est-à-dire, véritablement, on se complie dans le mal. On ne le voit plus. On pense tout simplement que dans le mal, il y a le bien. Et donc, ce qu'on fait, ce qui se passe à l'intérieur d'elles-mêmes, les nations, eh bien, elles sont assurées qu'elles ont la vérité. Et donc, cela au cours de tous les despotismes, les civilisations, jusqu'à l'arrivée du Machiav ben David, doit le comprendre, en fin de compte, qu'elles étaient dans la dualité et qu'elles étaient malades. Elles étaient malades. Les nations sont malades. Maintenant, le couple réparateur. Quel est le couple réparateur ? Le couple initial, ontologiquement essentiel, absolument épine dorsale de la messianisation du monde. Rav, je vous le dis, c'est le couple France-Israël. Alors, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la France, en un mot. Alors, la France...
Le prophète Obadiah dit que la délivrance viendra de France.
Oui, oui. Alors, qu'est-ce que c'est que la France ? La France est d'abord, dans son nom, Mitzrayim. Vous avez la racine en hébreu, Tsar. Tsar,
Tsarfat.
Tsarfat, d'accord ? Tsar, c'est un des noms secrets du Satan. Il faut le savoir, ça, hein. Donc, et la France, qui est Tsarfat, a cette racine de, tout simplement du monde, entre guillemets, de l'étroitesse,
et
de l'Égyptien.
Pat, c'est la valeur numérique de Lilith.
Oui, oui, oui. Bien sûr. J'allais venir.
Donc, en vérité, le mot Tsarfat fait allusion à toutes les forces
Alors,
du mal.
Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que, pendant la faute d'Adam Arishon, le serpent, par sa souillure, a pénétré la femme, à la séparer, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'homme, et la femme va resplendir, n'est-ce pas, dans un monde de désir, de plaisir, de paraître. Ça, c'est l'extériorité de la France.
Et la France, c'est l'habit,
le parfum, la nourriture.
Mais ce que vous dites, c'est extraordinaire. C'est pourquoi, en vérité, au niveau des peuples, la France est le pays qui est peut-être le plus tombé. Parce que c'est lui qui portait la plus grande lumière.
Exactement.
Et le serpent s'attaque à celui qui peut libérer le monde.
Exactement ça. C'est exactement ça.
Donc c'est pas que la France est démoncière.
Non, pas du
c'est
tout.
C'est parce qu'elle avait un potentiel énorme qu'elle a été attaquée.
Exactement. Donc maintenant, on revient à ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'en fin de compte, cette France-là représente l'ensemble des exils pour Israël. C'est l'Égypte, c'est le monde de l'Égypte, le monde de l'étratesse, le monde de la rationalisation de l'histoire, le monde de la science, bref. Elle est pénétrée du monde d'Elohim, elle est enfermée dans le monde de la nature. Elle ne peut plus, elle ne respire plus, elle a une problématique intérieure.
Et les premiers qui ont séparé l'Église de l'État, c'est
voilà,
les Français.
Voilà, on revient donc à la Révolution française. Que s'est-il passé en gros, parce qu'on peut parler des milliers d'heures là-dessus. Qu'est-ce que c'est que la Révolution française ? C'est en fin de compte le fait que le serpent a pénétré la femme, donc... et a réussi à commencer à pénétrer l'homme. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les forces de Nimrod, de la laïcité, de la république, de liberté, égalité, fraternité, etc., c'est tout simplement, les forces de Nimrod se sont tout simplement enfuies dans la France, et elles ont été développées d'une manière incroyable, événementielle, mais aussi dans la métahistoire secrète, au cours des derniers siècles. Et elles se sont complètement accélérées durant les 50 dernières années, depuis le général de Gaulle, depuis 1967 exactement. Qu'est-ce qui s'est passé ?
On comprend aussi pourquoi en Europe, le pays qui est en train de perdre le plus vite son identité.
Oui, alors c'est pour ça,
c'est
on va y venir.
Avec toute l'immigration.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
Parce que les forces contraires savent qu'il faut détruire la France.
C'est ça, alors c'est exactement ça. Alors il y a là-dedans une problématique de France, inter-France par rapport à elle-même. Elle est dans l'extériorité, le paraître, la femme qui veut jouir de la vie, des plaisirs, etc. C'est Marianne, mais dans son intériorité, elle est le symbole
de la Révolution française.
Voilà.
Elle est sur les pyramides avec les seins nus.
Voilà, exactement. C'est exactement ça. Et
pas sur les pyramides, sur les barricades.
Je me rappelle une histoire incroyable. J'étais à la mutualité en 1968, Rav. J'étais jeune et j'étais déjà féru de cette histoire-là intérieure de la France, etc. Et je vois une jeune fille monter sur les barricades, se déshabiller et montrer sa poitrine devant tout le monde. Je suis la France. Ça, c'est quelque chose qui m'a, en 1968, ça, c'est exactement quelque chose qui m'a complètement choqué à l'époque, parce qu'on était très prudes à l'époque. On ne voyait pas les femmes se déshabiller comme ça. Avant 68, c'est pas possible. Les femmes avaient les jupes, etc. En France, à Paris, c'était très difficile de trouver, à part certaines rues, etc. Mais et donc, ça m'avait complètement choqué. Le mai 68, c'est, si vous voulez, un pic du serpent. Vous voyez, c'est là où le serpent va commencer à resplendir. C'est-à-dire pourquoi? Parce que les forces de Nimrod intérieures de la France vont pénétrer la France par le serpent. Il y a eu une conjonction de forces du serpent et de Nimrod qui ont fait que, véritablement, la France a vu tout simplement ses points de repère se brouiller. Se brouiller. Donc, elle ne peut plus être elle-même. Depuis ce moment-là, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, elle se cherche, elle ne trouve pas de réponse. Pourquoi? Parce que la France, par rapport à Israël, forme, en fin de compte, un couple qui, à la fin des temps de l'histoire, normalement, se reconstituera pour former le Aleph, l'union de l'universel. Parce que la France représente l'ensemble des mondes de l'Égypte. Regardez, si vous voulez, vous voyez Paris, vous voyez Lille, vous voyez Paris, vous voyez Lyon, qu'est-ce que vous voyez au niveau des bâtiments? Vous voyez les Grecs, les bâtiments grecs, les bâtiments romains, vous voyez l'obélisque égyptienne, etc. C'est-à-dire, véritablement, la France porte en elle l'ensemble des forces de l'Égypte antique, mais sous sa forme moderne, qui est la laïcité.
Et on le voit au niveau de l'immigration, que voilà. Il y a des personnes du monde entier qui sont en France.
Voilà. Alors, il y a donc cette problématique qui vient de la nuit des temps, et qui essaie, développée à partir de la Révolution française, n'est-ce pas? C'est cette problématique de la laïcité qui, pour moi, est synonyme d'idolâtrie. C'est-à-dire que la France est passée...
La plus grande idolâtrie, c'est la laïcité, voilà. Puisqu'ils sont prisonniers de tous les systèmes inventés par les
voilà.
hommes.
Voilà, la France est passée, si vous voulez, de la fille aînée, entre guillemets, de l'Église, à tout simplement une Marianne, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour ce pays, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup, j'ai vécu là-bas de très nombreuses années, une prostituée.
Aujourd'hui, c'est la fille. La fille aînée de la mosquée.
Exactement. Elle se donne pour le pétrole, elle se donne pour l'argent, elle se donne pour tout.
Mais toujours à cause du principe de Zélé ou Mazé.
Voilà, exactement.
Les forces contraires font tout pour empêcher la lumière cachée à l'intérieur de la France de se dévoiler.
Exactement. Alors, qui est la France par rapport, en un mot, qui est la France par rapport à Israël? La France, c'est le côté Chava qui a fait la faute, et sa fonction
en tant que nation,
et sa fonction absolue, universelle, de la fin des temps de l'histoire, c'est de revenir à Chava avant la faute et d'épouser Israël. C'est-à-dire le couple Israël-France, c'est un couple qui est dans sa féminité, entre guillemets, France, et dont son principe directeur masculin, c'est Israël.
Vous savez,
Israël, reçoit donc la chorma, la connaissance de Dieu, en tant que Dieu étant, entre guillemets, si on peut parler comme ça, on l'a dit l'autre fois, par attribut masculin, Israël devient féminin, et en tant que féminin, elle va devenir masculin par rapport à l'universel, par rapport à la France. La France, Israël reçoit de Dieu, devient masculin, et la France qui est féminine va recevoir d'Israël. C'est ça le projet directeur de la fin des temps de l'histoire. Maintenant, la France, elle a un grave problème.
C'est pour ça qu'Obadiah dit que la délivrance viendra de France.
Oui.
Ça veut dire que c'est la féminité qui va construire le
Mashiach. Oui, exactement.
La féminité au niveau des nations, c'est la France.
C'est exactement ça.
Et juste pour vous interrompre, regardez, pour confirmer ce que vous dites, regardez, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, la France s'est coupée en deux.
Bien sûr.
Pétain, De Gaulle.
Et l'affaire Dreyfus aussi. Bien sûr.
Et en vérité, Israël renaît grâce à l'affaire Dreyfus.
Voilà.
Et ça se passe en France.
Mais c'est pour ça que Dieu a mis Herzl à Paris. Vous savez, Herzl était quelqu'un qui cherchait en tant que juif, il était assimilé, mais en tant que juif, il cherchait la réponse à la libération d'Israël. Il est devenu fou, mais Dieu l'a mis dans la vie.
Et qui est le philosophe français qui va complètement appuyer Dreyfus, j'accuse, qui c'était?
Eh bien, Émile Zola. Évidemment.
Donc, on voit que la France est partagée entre deux
voilà,
forces.
Voilà.
Entre une force
de haine
et une force de lumière.
D'amour. Exactement.
La France était le pays qui avait le plus de résistants.
Exactement.
La France est un des pays qui a sauvé le plus d'enfants juifs pendant la...
Exactement.
Ma mère a été sauvée par un couple de paysans français.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Ça veut dire qu'il y avait les deux aspects.
Évidemment.
Ce sont des Français et non des Allemands qui ont pris les Juifs pour les mettre dans les camps de concentration.
Exactement.
Moi, mes grands-parents ont été arrêtés par des policiers français, non Exactement. Des policiers allemands. Exactement. Mais d'un autre côté, les mêmes Français ont sauvé des enfants
Exactement.
Qui ont été dans la résistance.
Exactement. Exactement.
C'est-à-dire, on voit cette Exactement. Dualité incroyable.
Voilà. Voilà.
Le bien et le mal.
Voilà. Voilà.
C'est vraiment l'arbre du bien et du
oui,
mal.
Oui, absolument, absolument. Et vous m'avez vraiment pris l'idée, j'allais dire maintenant. La France est exactement la représentation dans notre monde de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle est en problématique incroyable. Regardez, je vais vous donner un exemple. Je vais vous lire un texte de Bonaparte. Un texte qui est très très peu connu. Voilà ce que disait Bonaparte en 1799. Je vais le lire, c'est pas très long. Mais écoutez, c'est quelque chose de fou pour vous montrer la problématique française. Proclamation à la nation juive. Proclamation à la nation juive.
C'est lui qui a créé le consistoire, en fait.
Oui, oui, oui. Attendez, regardez. Oui. Quartier général de Jérusalem. Il pensait arriver à Jérusalem, il n'est pas arrivé. Il est passé à Akko, il est parti à Jaffa, à Akko, à Saint-Jean d'Acre. Et de là, il a été obligé de repartir pour des raisons qui ne sont pas ici à propos. C'est trop long. Regardez. Premier floréal en 7 de la République française, 20 avril 1799. Bonaparte. Écoutez, c'est de la folie. Vous allez voir la problématique française. Commandant en chef des armées de la République française en Afrique et en Asie, aux héritiers légitimes de la Palestine, israélite, nation unique que les conquêtes et la tyrannie ont pu, pendant des milliers d'années, priver de leur terre ancestrale, mais ni de leur nom, ni de leur existence nationale, les observateurs attentifs et impartiaux du destin des nations, même s'ils n'ont pas les dons prophétiques d'Israël et de Joël, prophète, se sont rendus compte de la justesse des prédictions des grands prophètes qui, à la veille de la destruction de Sion, ont prédit que les enfants du Seigneur reviendraient dans leur patrie avec des chansons et dans la joie, que la tristesse et que les soupirs s'enfuiraient à jamais. Isaïe 35, 10. Je parle de Bonaparte. Regardez. Debout dans la joie, les exilés. Cette guerre sans exemple dans toute l'histoire a été engagée pour sa propre défense par une nation de qui les terres héréditaires étaient considérées par ses ennemis comme une proie offerte à dépecer. Je parle de Bonaparte. La Providence m'a envoyé ici avec une jeune armée guidée par la justice et accompagnée par la victoire. Mon quartier général est à Jérusalem, ça ne s'est pas fait, hein, Rav. Et dans quelques jours, je serai à Damas, dont la proximité n'est plus à craindre pour la ville de David. Héritier légitime de la Palestine. Regardez par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Hein. On parle de Napoléon.
Juste, n'oublions pas que Napoléon est corse.
Oui, oui.
N'oublions pas que c'est le pays où on fuit le plus de juifs après l'inquisition.
Oui, oui.
Et que jusqu'à aujourd'hui encore, on dit qu'énormément de Corses sont d'origine juive.
Oui, absolument.
Donc peut-être que c'est son étincelle juive.
Oui, bien sûr, mais évidemment. Mais c'est toute la problématique de la France, là. Regardez. La grande nation qui ne trafique pas les hommes et les pays sont à la façon de ceux qui ont vendu vos ancêtres à tous les peuples, Joël 4, 6, ne vous appelle pas à conquérir votre patrimoine. Non, elle vous demande de prendre seulement ce qu'elle a déjà conquis avec son appui, l'appui de la France, et son autorisation de rester maître de ses terres et de la garder malgré tous les adversaires. Levez-vous, juifs ! Montrez que toute la puissance de vos oppresseurs n'a pu anéantir le courage des descendants de ces héros qui auraient fait honneur à Sparte et à Rome. Maccabée 12, 15.
Mais ça pleurait, ce texte.
Oui, oui, mais absolument.
Je vais faire un effort pour en tenir mes larmes.
Regardez, il y a de quoi.
Mais ce texte est connu.
Non. Montrez que 2000 ans et d'esclavage n'ont pas réussi à étouffer ce courage. Hâtez-vous! Hâtez-vous, dit Bonaparte, c'est le moment qui ne reviendra peut-être pas d'ici 1000 ans, de réclamer la restauration de vos droits civils, de votre place parmi les peuples du monde. Vous avez le droit à une existence politique en tant que nation. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'il dit il y a 200 et quelques années, d'accord ? En tant que nation, parmi les autres nations, vous avez le droit d'adorer librement le Seigneur selon votre religion, Joël 4, 20. Nota bene, le 16 août 1800, Napoléon déclara « Si je gouvernais une nation juive, je rétablirais le temple de Jérusalem, de Salomon. » On parle de la France, de Napoléon Bonaparte.
Mais juste...
Bon, alors attendez.
Laissez-moi vous interrompre. Oui. Regardez. Les fondations du retour d'Israël sur sa terre viennent de France.
La France.
Herzl à Absolument. Paris, quand tu fais la Fédération Dreyfus.
Absolument.
Et qui a, le milliardaire qui a aidé avec des milliards à reconstruire Israël, c'est le Rothschild de France.
Absolument, absolument.
Il y avait un Rothschild en Autriche, un Rothschild à Londres et un Rothschild en France. Absolument. Edmond de Rothschild.
Absolument.
Qui a reconstruit tout, Zichron Yaakov, toutes les villes. Qui a donné de l'argent pour tout reconstruire?
Absolument.
Qui a reconstruit l'agriculture? C'était Edmond de Rothschild, un Parisien.
La Galilée. La Galilée.
Voilà, ni celui d'Angleterre, ni celui d'Autriche.
Exactement.
Donc on voit que toute la reconstruction d'Israël sur sa terre vient de France.
C'est pour ça que Herzl, lorsqu'il a vu que le rabbin de France, Zichrono Tzadik Livracha, d'accord, le grand rabbin de France, qui s'appelait monsieur. Le grand rabbin de France de l'époque de. Bon, ça va me revenir. Eh bien. Il n'était pas très chaud. Et quand Napoléon a vu que les Juifs de France étaient très bien en France, écoutez bien ce que je vous dis, il a été extrêmement choqué. Il se retournait vers les délégués des rabbins de cette époque-là en leur disant, dans ces cas-là, nous allons construire le Sanhédrin à Paris.
Le consistoire.
Puisque vous ne voulez pas Jérusalem, on va le construire à Paris. Et regardez, écoutez bien ce que je vous dis. Deux choses terribles. Il se retourne vers le marquis de Clermont-Tonnerre, qui était à l'époque un noble qui avait réussi à se sauver de la Révolution française, à être libéré des crocs de la Révolution française. Et il lui a dit, monsieur le marquis, je voudrais que vous fassiez une étude très profonde sur les juifs en France. Et au bout de quelques mois, il vient le voir et lui dit comme ça. C'est pas difficile. La situation des juifs de France, elle est la suivante, monsieur Napoléon Bonaparte, empereur des Français. Rien en tant que nation, tout en tant qu'individu. Je répète, rien en tant que nation, tout en tant qu'individu. C'est-à-dire, véritablement, c'est exactement le contraire de ce que voulait Napoléon. Voilà la problématique de la France. Attendez, j'ai pas fini. En 1806, à peu près.
Juste, excusez-moi, vous interrompre. N'oublions pas aussi que, ayant traversé tellement de souffrances et de massacres, les endroits où les Juifs ont trouvé un peu de repos, et ils ne pensaient plus qu'à eux. Parce que n'oublions pas qu'il y a eu quand même, même en France, au Moyen-Âge, des massacres de juifs, les croisés quand ils sont partis à Jérusalem, toutes les communautés juives sur leur passage, ils ont mis tous les juifs dans les synagogues, les ont brûlés vifs. Donc, il faut aussi, malgré tout, je n'excuse pas, attention, mais comprendre qu'un homme qui a tellement souffert, quand on lui propose un bon repas, il ne pense plus qu'à ça.
Bien sûr. Pour les juifs de France, à cette époque-là, attention, pour les rabbins de France, c'était la libération grâce à la Révolution française. Ils ont vraiment, il y a eu une problématique incroyable avec Napoléon. Est-ce que c'est le Messie, oui ou non? Ça a été vraiment chez les rabbins de cette époque-là, le grand problème. Même Rabbi Nachman de Breslav, entre parenthèses, il a entendu ce que faisait Napoléon, il s'est posé la question si c'était pas le Messie qui est arrivé. Parce que, encore une fois, cette France, elle a un double visage. Elle a un visage d'amour, regardez la lettre qu'a écrit Napoléon, et un visage de haine, regardez ce qu'a dit le marquis de Clermont-Tonnerre.
Dreyfus, oui, et Zola d'un côté,
voilà.
Et la corruption de l'autre.
50%, voilà, 50% des Français étaient avec Dreyfus, 50% étaient contre Dreyfus, et malheureusement, pendant la Shoah, il y a eu une indifférence incroyable,
la même chose,
50-50. À peu près. Oui. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que s'est passé? Alors, je reviens au duc de Berny en 1806. C'est, Napoléon a dit, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Puisque les Juifs de France ne veulent pas reconstituer, les Juifs d'une manière générale, dans le monde entier de cette époque-là, ne veulent pas reconstituer la nation d'Israël en Palestine, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors il a dit la chose suivante au duc de Berny, il a écrit une lettre. Il a dit la chose suivante, monsieur le duc, il faut absolument favoriser l'assimilation des Juifs de France. Il faut que les mariages...
Qui a dit ça?
Napoléon. Après avoir a vu la réaction des rabbins, etc., là, il a dit, dans ces cas-là, il faut qu'ils soient français. Alors on va accélérer là, par les mariages mixtes.
Français de confession
israélite. Voilà, par les mariages mixtes. On va tout simplement faire en sorte...
Ça a été une loi dans le consistoire.
Oui, voilà.
Que sur deux mariages juifs que faisaient, ils étaient obligés de faire un mariage
mixte. Mais ça vient de la discussion entre l'échange de lettres à l'époque, évidemment, il n'y avait pas le téléphone.
Mais c'est pourquoi il s'est retourné comme ça. Si au départ il avait un tel amour pour la nation d'Israël,
encore une fois,
après il veut assimiler les juifs?
Alors, encore une fois, pour deux raisons. D'abord, il représente, lui, évidemment, l'empereur des Français de l'époque, n'est-ce pas? Il avait en lui cette double problématique de la France. Le serpent, les forces de Nimrod qui apparaissaient après la Révolution française, et surtout, il avait aussi cet amour, cette lettre-là, elle vient du côté amoureux.
C'est vraiment l'art de la connaissance
voilà, du bien et du mal. La France porte en elle cette problématique qui, jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu par exemple, pendant la 4ème République, juste avant l'arrivée du général de Gaulle en 1958, vous avez eu vraiment des rapports extrêmement édifiants, extrêmement serrés.
C'est entre la France qui a permis à Israël de créer la bombe atomique. Oui. Ça se dit pas, mais bon.
Oui, entre la France et Israël. Et regardez, par exemple, je vous donne un exemple. Le premier ambassadeur français à Tel Aviv s'appelait Pierre Gilbert. Pierre Gilbert a voulu absolument, qu'il n'était pas juif, bien sûr, c'était un Français, Pierre Gilbert voulait absolument apprendre l'hébreu. Il ne parlait qu'hébreu avec les Israéliens, pour vous donner une idée. Vous sachez que l'état-major israélien rentrait à l'école militaire à Paris, comme si c'était à Tel Aviv.
Mais jusqu'à la guerre des Six Jours, le plus grand pays allié d'Israël était la France.
C'était la France. Donc la problématique de la France, elle est redoutable. Pourquoi ? Parce que la France a été pénétrée par le serpent. La France a séparé son côté féminin du côté masculin. La France s'est laissée prise au piège de l'attrait, du désir, du paraître. Paris, ville de lumière. À la place de Jérusalem.
De lumière obscure.
Oui, bien sûr. Lumière par rapport à Jérusalem, imaginez-vous, c'est une lumière obscurissante.
C'est intéressant, la tour Eiffel. Qu'est-ce que veut dire le mot Eiffel en hébreu ? Obscurité.
Bien sûr. Voilà, exactement.
Non, la tour de l'obscurité, traduit en hébreu.
Mais bien sûr. Mais vous savez ce que c'est que la tour Eiffel ? C'est la tour de Babel qui revient.
Mais évidemment.
C'est la tour de Babel qui revient.
Ils n'ont pas dit, mais tout le monde le
comprend. Mais bien sûr, c'est le monde de Nimrod. Elle est arrivée à cette fameuse révolution industrielle, aux environs du 1880 et quel, n'est-ce pas, pour faire prendre conscience à l'âme universelle que la France, ça y est, a confisqué la mission d'Israël, Maintenant, la France va resplendir exactement comme resplendit le monde de la faute, où Dieu était tout simplement dans son camp, certaines fois pas dans notre monde, et l'homme se voulait l'homme se voulait libérer de tout joug divin. Ça, c'est la France d'après la Révolution française. Et donc, aujourd'hui.
Donc, Nimrod.
Oui, donc.
La Révolution française, c'est Nimrod.
Exactement. Ce sont les forces de Nimrod qui ont pénétré la France.
Il y avait sans doute au départ, évidemment, une intention extraordinairement bonne et positive. Mais tout de suite récupérer.
Regardez, bien sûr, regardez.
Parce qu'ils se sont quand même attaqués à la noblesse et au
clergé,
toute la dictature française.
Alors je vous explique. D'une manière extrêmement synthétique, c'est quelque chose que je connais très bien, que j'ai étudié ça très profondément à la Sorbonne. Je vous donne ça en quelques secondes. La Révolution française, c'est deux parties, si vous voulez. C'est une première partie, 1780, un peu avant, fin 88, 1793, d'accord, jusqu'à la mort de Louis XVI, le 21 janvier, n'est-ce pas ? Cette révolution-là était une révolution populaire. Elle venait du cœur. Les gens n'en pouvaient plus. N'en pouvaient plus. Et Madame Marie-Antoinette, la reine de France, qui a rencontré le Rida plusieurs fois.
Oui. Un grand maître.
Un grand maître kabbaliste, parce qu'elle était très. Marie-Antoinette était très très croyante. Elle était tous les jours.
Oui, il a été au palais.
Oui, il a été plusieurs fois à Versailles. Il a été plusieurs fois à Versailles. Et de quoi il parlait, ça je le sais de sources sûres. Hein. Et de quoi il parlait ? Il parlait de cabale. Et Louis XVI, le bon roi, comme on disait à l'époque, le bon roi Louis XVI, il n'était pas si idiot que ça. Il cherchait, il adorait les serrures. Mais regardez au niveau du sol, vu que Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'il cherchait ? Il cherchait la clé de la délivrance. Il cherchait la clé de la délivrance. Parce que la France a cette problématique de la délivrance depuis la Révolution française. Il disait, mais attendez, ce qui se passe là, Louis XVI, dans sa tête, il disait, mais c'est très grave. La France va perdre ça, tout simplement, son essence même de vie. Elle va se donner aux forces du mal. Je cherche la clé. Tout le monde le prenait pour un malade, pour un désœuvré, bon Louis XVI, le bon roi, quoi. Mais ils n'ont rien vu. Il était extrêmement féru de sciences ésotériques. Il voulait comprendre pour sauver la France et sauver l'humanité. Il avait en lui cette double problématique qu'a eu Napoléon. Il y a un projet, mais le serpent m'a empêché de l'accomplir. Je ne sais plus qui je suis. Il y a des forces d'obscurité à partir de 1793. C'est la guillotine. Et c'est quoi la guillotine, là ? Vous avez compris ?
La séparation entre le haut et le bas.
Exactement. On va couper la tête du Yud. L'homme étant, comme on l'a dit de nombreuses fois...
Le corps en bas et la tête en haut.
Exactement, c'est-à-dire véritablement de rentrer dans un monde d'obscurité, d'obscurantisme absolument éhonté, ontologiquement grave. La France est en danger de, tout simplement, de mort. Aujourd'hui, je le dis et je le précise. Pourquoi ? Parce qu'elle va jusqu'au bout de, son, de sa désintégration intérieure. Elle est aujourd'hui rentrée dans une telle désinformation, une telle... Ah, regardez, il y a ici... Un texte que j'ai marqué, ça c'est le livre qui sortira Bezrat Hashem quand Dieu veut, Bezrat Hashem. Regardez, Stéphane Jouffa, Mena Presse, d'accord, un journaliste, le 15 janvier 2017, c'est-à-dire aujourd'hui, quoi, il y a quelques années, relève le travail sourd, secret, infâme de cette France contre le plan divin. La France mène une guerre froide contre l'État hébreu, sans que ce dernier ne riposte et le conduise à son tour contre l'action belliqueuse de l'agresseur. L'objectif de la France consiste à affaiblir Israël afin que sa taille soit réduite, qu'elle veut diviser Jérusalem en deux, qu'elle abandonne une partie de sa capitale et qu'elle se retire sur des frontières indéfendables. Les armes de cette guerre sont principalement de deux sortes, dit Monsieur Jouffa. Diplomatique et médiatique, en s'appuyant sur une agence de presse étatique, hein, l'agence France Presse.
Les manifestations les plus mensongères qu'il y a eu pendant le dernier conflit, c'était en France.
Voilà. Et monopolistique, ainsi que par un réseau de médias publics qui est omniprésent et exagérément développé. Tout le vocabulaire employé à l'ONU et par l'AFP, l'agence France Presse, est reproduit tel quel dans la presse tricolore. Il n'y a plus de sens critique. L'expression sélectionné par les généraux du Quai d'Orsay, je finis, s'inscrit strictement dans cette dialectique de cela commence par l'usage excessif des mots colonie, des mots colon, etc. Bon, il s'agit tout simplement d'une offensive de mort.
Par contre, les Français ne sont pas des colons, hein.
Bien sûr.
Ils ont volé la Corse,
bien sûr.
La Guadeloupe, la Martinique,
bien
la
sûr.
Réunion, Madagascar à l'époque, etc. C'est pas des colons.
Bien
hein.
sûr, bien sûr,
voilà.
Bien sûr.
Alors, combien de pays aujourd'hui en dehors de la France sont sous régime français?
Bon, je suis trop long, mais c'est extraordinaire parce que tout simplement, la France est en premier plan du combat secret, rusé, le combat du serpent, avec le sourire. Nous sommes des.
Toujours, c'est toujours, deux aspects
qu'il y a en France de la dualité.
Alors, autre côté, c'est précisément en France, moi je le sais par mes cours, qu'il y a un réveil au niveau du peuple français.
Voilà.
Et un amour pour Israël inimaginable.
Exactement.
Ce sont tous mes élèves en France, etc., qui ne sont pas juifs. Mais c'est inimaginable, cette révolution qui vient du bas en France.
C'est ça.
Inimaginable.
Et c'est ça qui...
Ces deux aspects.
Voilà. Maintenant, on arrive à la croisée des chemins. Pourquoi ? Parce que je vais vous expliquer d'une manière un peu plus profonde. Les juifs de France, sont des Français. Nous, moi, d'accord ? Moi, je suis français, hein, de nationalité. Je suis israélien et français. Bon, les juifs de France qui sont venus en Israël représentent la France. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Les forces de la France sont rentrées ici en Israël. Ils sont rentrés à Jérusalem. Dans notre quartier, il y a énormément de juifs de France. Ici, à Jérusalem. Bien, il y en a à Netanya, il y en a à Ashdod, il y en a partout.
La ville où il y a le plus de Français, c'est à Jérusalem.
Bien sûr. Alors, pourquoi je dis ça? C'est très important. Parce que, en fin de compte, Dieu nous dit la chose suivante. Le couple France-Israël, écoutez-moi bien, c'est très important, le couple France-Israël, s'il ne fonctionne pas à la fin des temps de l'histoire, eh bien la France va se déstructurer jusqu'à disparaître en tant que France, et je vais utiliser le côté France des Juifs d'Israël pour pouvoir faire la symbiose et faire
mais
sortir
Adam Arishon. C'est ce que dit Obadiah, lorsque les Juifs reviendront de France, Ve'aïta l'Hashem Amloucha, Dieu retrouvera sa royauté.
Voilà.
Donc ça ne va pas nécessairement passer par le français-français,
exact.
Sauf, on peut dire, tous les Français au niveau du peuple qui se réveillent,
c'est
qui
ça.
Sont les amis d'Israël. Mais en vérité, c'est le Juif français qui revient en Israël en ayant pris avec lui toute la lumière de la France.
C'est ça, exactement.
Mais en vérité, donc, c'est oui grâce à la France,
c'est
parce
ça.
Que nous sommes porteurs de la lumière positive
oui,
de
mais
la France.
Attention, la France qui reste là-bas, n'est-ce pas, elle est en danger mortifère, elle est en danger de mort.
C'est ce que disent tous les Français aujourd'hui.
Elle est en danger de mort.
Que la France va disparaître.
Grave, il risque d'avoir une guerre civile très très grave, très très monstrueuse. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la France est pénétrée par les forces de Nimrod depuis très longtemps, depuis plus de 200 ans, la Révolution française, et surtout, le serpent l'a conquis complètement. C'est-à-dire qu'elle est complètement désinformée, elle a perdu l'union des valeurs morales, toutes les valeurs morales françaises ont été inversées, et donc ce qui est vraiment mortifère et qui fait très très peur, c'est que moi personnellement, à aujourd'hui, je ne vois pas quelles sont les forces, disons, des élites françaises qui vont inverser le cours de l'histoire, à moins du réveil du bas. À moins du réveil du bois. C'est la seule chance
oui,
que je donne.
Le peuple est tellement endormi. Mais tous les peuples, même en Israël.
Bien sûr.
Les peuples sont tellement endormis par la dictature démocratique.
C'est évident. Donc, c'est pour ça que, véritablement, dans ce couple France-Israël, il y a une problématique qui est existentielle, qui vient ontologiquement de la création, qui vient d'Adam Rishon, qui vient de l'être universel. La France a voulu confisquer le programme d'Israël, elle a voulu seule régner sans Dieu, si vous voulez, laïque, sans Dieu.
Disons que c'est exactement le problème, entre parenthèses, d'une certaine partie du christianisme. On est le nouvel Israël.
C'est ça.
La France a voulu devenir pour le monde le nouvel Israël.
Voilà.
Sur le plan politique, social, économique,
etc. Et vous savez pourquoi ? Parce que elle avait son ange protecteur, n'est-ce pas, a compris que déjà à la Révolution française, il y avait un début de messianisation du monde par Israël. C'est-à-dire que la France savait très profondément que le temps du retour d'Israël sur sa terre, d'où la lettre de Napoléon, n'est-ce pas, Bonaparte, savait que le temps était arrivé du retour. Et déjà, il y a plus de 220 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes arrivés aujourd'hui à la fin des temps de l'histoire.
Dreyfus, c'est après Napoléon, l'affaire Dreyfus.
Bien sûr, l'affaire Dreyfus, c'est 1895. Mm-hmm. Napoléon, je vous parle là, c'est 1799.
Oui, c'est l'affaire
Dreyfus, c'est 100 ans après. Mm-hmm. L'affaire Dreyfus, c'est quelque chose d'absolument énorme. C'est un phénomène d'annonciateur de la fin des temps de l'histoire. L'infâme, un procès qui a été un procès en porte-pièce, exactement comme le procès contre Marie-Antoinette, entre parenthèses, et le roi Louis XVI, 100 ans auparavant, n'est-ce pas ? Ce qui s'est passé avec la femme de feu, c'est une honte. Et jusqu'à aujourd'hui, il a fallu 100 ans pour que l'armée française reconnaisse que c'était tout simplement un complot.
Bien sûr.
Il y a quelques années...
Mais d'un autre côté, comme toujours quand ça concerne les Juifs, chaque mal est la matrice d'un bien.
Voilà.
Parce que Dreyfus amène Herzl.
Bon, exactement.
Chez nous, on peut presque dire merci Hachem de nous mettre dans l'obscurité.
Voilà,
parce que chaque obscurité, c'est la matrice d'un bien.
C'est ça l'arbre de la connaissance. Du mal sort le bien. Ouais. Et donc, ce qu'il faut comprendre une chose, c'est que s'il n'y avait pas cette affaire Dreyfus, Herzl n'aurait pas du tout écrit son livre
L'État juif...
Le soir même, il a commencé. D'ailleurs, c'est très incroyable. Il a... Herzl... Regardez, je vais vous donner une anecdote qui est très, très peu connue. Herzl était tout simplement en problématique intérieure. À un moment donné, il disait « on va tous se devenir chrétiens.
Bah, » Sauf lui. Assimilé.
Sauf lui.
La plupart de ses enfants se sont convertis au catholicisme.
Oui.
C'est une chose horrible.
Oui.
Le fondateur du retour d'Israël, ses enfants se convertissent au catholicisme.
Malheureusement.
Mais ça prouve combien c'était des familles, on peut dire, qui sont le modèle de l'exil d'Israël.
Attendez, complètement déchirées. Sa femme l'a quitté, elle est partie à Bordeaux, dès qu'elle a compris qu'il avait en lui le sionisme. Il faut comprendre, hein. Donc, il a beaucoup souffert de
parce que c'est le juif déchiré par l'exil.
Exactement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est aussi l'arbre du bien et du mal.
Exactement. Herzl portait en lui l'arbre du bien et du mal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il faisait tous les dimanches matins, pour ceux qui connaissent Paris, les Champs-Élysées, la Concorde, etc. Et il commençait à réfléchir. Et tout à coup, il commençait à entendre qu'il y avait une certaine affaire Dreyfus. Il était chroniqueur à l'Assemblée nationale française en tant qu'envoyé de la nouvelle presse
autrichienne.
La nouvelle presse.
Et entre parenthèses, Herzl, le reconstructeur, sort d'Autriche. Hitler, le destructeur, sort d'Autriche.
Bien sûr.
C'est pas un Allemand, c'est un Autrichien.
Bien sûr.
C'est incroyable.
Mais attendez, c'est incroyable. Mais les accords d'aujourd'hui par rapport à l'Iran et la bombe atomique, ils ont été signés à Vienne. Et la semaine dernière, il y a encore toujours aujourd'hui des accords secrets où, à Vienne, et tout le monde sait que dès que l'Iran a la bombe atomique, elle tombera sur Israël automatiquement. Mais tout le monde le sait. Alors c'est terrible ce qui se passe, parce que cette volonté mortifère de la France de détruire Israël, secrètement, qui aujourd'hui, tout simplement, est arrivé à son paroxysme, va entraîner un point fondamental, c'est tout simplement la déstructuration de la France jusqu'à son risque de disparition.
La France est la première qui va disparaître.
Alors regardez, je reviens juste à cette histoire qui est extraordinaire. Regardez comment la main de Dieu dans l'histoire. Donc Herzl, nous sommes en 1895, oui. À peu près, d'accord ? Herzl, aux environs du mois de mars, à peu près. Herzl est très très soucieux du problème juif, etc. Il entend tout simplement des manifestations dire « Mort aux Juifs, vive la France, mort aux Juifs !» Nous sommes en 1895 à peu près, d'accord ? À peu près, c'est ça. Eh bien, il se dirige vers où ? Vers l'école militaire. Et il entend quelqu'un qui lui dit « Eh monsieur, vous voulez rentrer ?» Regardez la main de Dieu dans l'histoire. Il ne pouvait pas lui, parce qu'il n'avait pas... Il n'avait pas la carte qui lui permettait de rentrer. Les gardes, évidemment, les gardes français ont refusé qu'il rentre. Il a dit, j'ai un rendez-vous très urgent, je vous donne ma place. Et Dieu le met exactement en face
de Dreyfus.
Dreyfus. Exactement en face. Il devient fou. Il entend mort aux Juifs. Il entend vive la France. La France détruira le judaïsme. Il entend des choses. Il disait, c'est pas possible. Il est sorti. Je suis innocent de Dreyfus. Il est sorti de cette histoire. Complètement détruit de l'intérieur, perturbé, déstructuré. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, si la France, pays qui se dit républicain, démocratique, arrive à dire aujourd'hui, à notre époque, mort aux Juifs, c'est qu'il n'y a aucune solution que l'État juif. Ça, c'est cette prise de conscience de l'État juif vient de cette affaire Dreyfus que Dieu a mis en première loge, Herzl, il s'appelle Benjamin Zeev. Herzl, pas comprendre.
Et Benjamin est le seul des tribus d'Israël qui est né en Israël.
Bien sûr.
Le seul qui est né en Israël. Et des millénaires après, c'est un Benjamin qui parle du retour.
Bien sûr. Et pourquoi c'est Zeev ? Parce que l'emblème du loup, Zeev c'est loup, l'emblème de le territoire de Benjamin, c'est le loup.
Bien sûr.
C'est le loup. Il s'appelle Benjamin Zeev Herzl. C'est-à-dire qu'il porte en lui la Géoula chez les mains. C'était un hébreu en devenir.
Et d'ailleurs, comme j'ai lu une fois un commentaire, Herzl, c'est l'ombre de la montagne.
Absolument.
Herzl.
Absolument.
L'ombre de quelle montagne ? La montagne de Sion.
Bien sûr.
Qui est dans l'ombre.
Évidemment.
Et donc, il porte en lui le nom de l'exil.
Exactement.
Herzl,
exactement.
La montagne de Sion est dans l'ombre.
Exactement, c'est très fort. Ça, je ne savais pas, c'est très fort. C'est très très fort.
C'est extraordinaire.
C'est-à-dire que Dieu.
C'est-à-dire que Benjamin va ramener la lumière à la montagne de Sion.
Oui, mais à partir de Paris. La prise de conscience ne se fait pas à Jérusalem.
Parce que tout est venu de la France.
Tout vient de la France.
Et Obadiah l'a dit il y a des millénaires.
Voilà, exactement.
Tout viendra de France.
Exactement. Exactement. Donc, ce couple France-Israël, qui malheureusement. Et Israël attend quoi ? Que la France fasse sa propre réparation intérieure, qu'elle soit elle-même.
Mais c'est pour ça que, comme vous l'avez dit, le Nahash est attaqué à la femme pour faire tomber l'homme.
C'est ça.
Le Nahash attaque à la France pour faire tomber Israël.
Exactement. Exactement. Mais la France, elle est prise par les gros, par le venin du Nahash. Elle n'a pas la capacité. Et Israël attend. Jusqu'à quand ? Jusqu'à l'arrivée du Mashiach ben David. Donc le temps presse. Il faut que la France se réveille. Il faut que le couple se refasse. Parce que, encore une fois, si le couple ne se fait pas, parce que la France va tout simplement, dans sa structure d'aujourd'hui, disparaître, je dis bien disparaître, à partir de ce moment-là, il y a les Juifs de France qui sont revenus en Israël, ils vont faire l'union des contraires en Israël, le côté extérieur c'est les Juifs de France, le côté intérieur étant Israël, et à partir de ce moment-là, Adam Arishon sort, le Mashiach ben David sort, c'est pour ça que la France est sur la sellette, c'est un eugorgien, nous sommes véritablement à la veille des temps d'une histoire qui est tout simplement pour la France mortifère. Il faut qu'elle se réveille le plus vite possible.
Les Français le savent.
Et les Français commencent à le comprendre.
Je parle avec combien de Français non-juifs qui me disent « Rav, on va tous disparaître. »
Ah, c'est très grave.
On va tous disparaître.
Bien sûr. Parce que la France n'a pas réussi à rejeter le serpent de l'histoire et à rejeter les forces de Nimrod pour être elle-même. La France, en tant que France, c'est le monde de l'Égypte, on l'a dit tout à l'heure, mais un monde de l'Égypte qui avait la capacité, comme Pharaon, de reconnaître le Dieu de l'histoire. Mais là, semble-t-il, elle le va jusqu'au bout de sa propre infamie.
Regardez, même la fin de la Deuxième Guerre mondiale s'est passée par la France, le débarquement en Normandie.
Mais évidemment.
Ça veut dire qu'il y a des messages qui sont envoyés dans
l'Occident.
Ça veut dire que le bien comme le mal, toujours ça passe par la France.
Absolument. Absolument. C'est pour ça que
Parce que là, On délivre l'Europe grâce au débarquement en France.
C'est pour ça que la France doit se réveiller. Mais c'est très grave. C'est une question vraiment de jours, de semaines, de mois, d'années maximum. C'est vraiment, nous sommes arrivés à la fin du nœud gordien. La France, ça passe ou ça casse. Et donc il faut faire un appel, y compris aux Jours de France. Je fais un appel aux Jours de France. Réveillez-vous comme a fait Napoléon. Bonaparte, il y a 220 ans. Napoléon a dit aux Jours de France, revenez en Eretz Israël. La situation est très grave.
Je l'ai dit récemment dans un cours que ceux qui empêchent le plus la délivrance, c'est les Juifs qui restent en France. Puisque le prophète Obadiah a dit clairement que le dévoilement d'Hachem comme roi dépend du retour des Juifs de France.
Bien sûr.
Donc chaque Juif qui reste en France est le premier responsable de tous les malheurs du monde.
Exactement. C'est d'où la responsabilité entre parenthèses des chefs de communauté et des, malheureusement des rabbins. Qui font tout pour empêcher.
Et c'est leur parnassa.
Bon, oui, d'accord, mais c'est très grave.
C'est leur salaire.
Hein. Oui, mais c'est très grave. Vous comprenez bien que c'est très grave. Parce que Dieu attend, mais il n'en peut plus d'attendre. Il attend que le couple essentiel, ontologiquement primordial, France-Israël, se refasse. Et si la France n'est pas capable, parce qu'elle est tombée à un niveau d'infamie et d'obscurité et d'impureté telle qu'elle a dépassé le 50e degré d'impureté, eh bien, il y a l'Égypte de France pour sauver la France quelque part. Il l'a remplacé. Voilà, donc la problématique, elle est absolument fondamentale. Je tenais à faire cette intervention parce que nous sommes à la veille, tout simplement, de phénomènes extrêmement graves en Europe et en France.
Non, ce sont des messages absolument incroyables et ça confirme, encore une fois, tout ce qui a été dit aujourd'hui, tout ce que vous avez dit, confirme finalement une prophétie qui date de millénaires, la prophétie d'Obadiah. Qui dit clairement que la réparation de la France amènera la délivrance finale.
Exactement.
Je pense sincèrement, parce que je le vois sur le terrain, qu'il y a un réveil inimaginable au niveau de la population française. Bon, toujours le bien et le mal.
Ah, mais les élites, les élites dominent.
Mais le problème, c'est les dirigeants. Mais comme en Israël. Les dirigeants, aujourd'hui, c'est la grande mafia du monde qui fait tout pour affaiblir les peuples.
Absolument.
Mais grâce à Dieu, on voit partout dans le monde une partie du peuple qui se réveille.
Absolument.
Et la délivrance viendra grâce à ce réveil du bas.
Absolument.
Comme dit le verset, Ish tsemar umi tarta mitzmar, la délivrance va pousser du bas vers le haut.
Exactement. C'est des peuples que viendra la Géoula.
Ah, mais ce n'est pas des dirigeants et pas des rabbins.
Attention, le combat contre la mondialisation, tout ce qu'on a dit les fois précédentes, ouais. Évidemment, est de cours aujourd'hui. C'est-à-dire, véritablement, attention, il s'agit d'un problème universel de se battre contre le serpent de l'histoire qui est universel, qui n'est pas français. N'est-ce pas? On le retrouve partout dans le monde.
Zohar dit clairement que la première chose que fera le Mashiach lorsqu'il va se dévoiler, c'est réveiller les peuples pour les amener à ses côtés pour partir en guerre contre tous les tyrans
du monde. Mais c'est exactement ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Mais ça va aller très vite. Hein. La dynamique de l'histoire s'accélère jour après jour. Voilà.
Merci beaucoup pour ces dévoilements absolument incroyables aujourd'hui. J'avoue que, comme je vous le dis à chaque fois, qu'à chaque fois qu'on fait un nouveau cours, j'oublie les précédents. Bien qu'ils sont inoubliables, mais chaque cours est tellement fort que je transmets un dernier message avec la permission de notre cher ami. Tous ceux qui écouteront ce cours, juifs et non-juifs, vous, juifs de France qui écoutez ce cours, prenez conscience une fois pour toutes que vous êtes malheureusement, inconsciemment, ne pensez pas que je vous accuse, même si j'ai dit des mots forts tout à l'heure, mais inconsciemment, comprenez que vous êtes directement lié à l'exil. Parce que le prophète Obadiah a clairement expliqué, et regardez les commentaires, Rashi, le Radak, tous disent que le mot Tsarfat utilisé par le mot Obadiah fait allusion à France. Et donc, tant qu'il y aura une grande partie de juifs en France, le Mashiach ne se dévoilera pas. Donc vous portez sur vos épaules la responsabilité de tous les malheurs du monde.
Exactement.
Revenez.
Exactement.
Et maintenant je m'adresse à tous les Français, tous ceux qui sont du côté du bon côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Réveillez-vous, prenez conscience que vous devez sauver votre pays.
Exact.
Et grâce à votre réveil, se recréera le couple Israël-France.
Exactement.
Et la délivrance viendra.
Exactement.
Merci beaucoup pour cette intervention inimaginable, mais vraiment prophétique, et que l'on puisse mériter dans notre génération de voir la reconstruction de la véritable France et le retour de tous les Juifs français en Israël.
N'oubliez pas Victor Hugo, n'oubliez pas Émile Zola, N'oubliez pas tous ces juifs des nations qui ont sauvé pendant la Shoah, qui n'étaient pas juifs, ces protestants qui ont sauvé pendant la Shoah, des milliers de personnes.
Beaucoup
n'oublions
de
pas.
Aussi.
Beaucoup de catholiques, aussi. Évidemment. N'oublions pas.
Ma mère a été sauvée par une famille catholique.
Mais bien sûr, n'oublions pas qu'en France, il y a des gens extrêmement bien. Et il faut les sauver, il faut les réveiller. Que ces gens bien viennent tout simplement par leur force intérieure, la lumière qui est dans eux, viennent tout simplement réveiller les autres, de manière à ce que ce mouvement-là puisse sauver la patrie France, malgré tout, qu'on aime.
Bien sûr. Merci beaucoup.